Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission. Nous allons parler des dégâts causés par les inondations à travers le pays, dans plusieurs provinces, dans certaines provinces à travers le pays. Aujourd'hui, comment faire face à cette situation? Professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert sur les questions de l'environnement et risques naturels, est notre invité aujourd'hui. Professeur, bonjour. Voilà, on va l'accueillir dans quelques instants, professeur Jean-Pierre Ndjibou. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Willem Lungamba, la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission avec l'assistance de Marc Tchata. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, comment faire face aux dégâts causés par les inondations? La situation humanitaire ne cesse de s'aggraver avec la montée des eaux du fleuve Congo et ses affluents. Et c'est en provoqué des vastes inondations dans plusieurs provinces et ainsi que dans la capitale. Et c'est là suite aux pluies diluviennes enregistrées au mois de décembre 2023. Plusieurs quartiers sont submergés, sont encore sous les eaux, à Mbandaka par exemple. La régie des voies fluviales a indiqué dans un communiqué que cette crue a atteint 6,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, proche du record de 1961. Ces inondations ont causé des dégâts matériels importants, des pertes en vies humaines, etc. Alors comment aujourd'hui faire face à cette catastrophe? Quel est le plan de contingence adapté aux crues des eaux, voilà, en saison de pluie? On en parle avec notre invité aujourd'hui, professeur Jean-Pierre Ndjibou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Bien, on a connu ces inondations depuis le mois de décembre. Plusieurs provinces sont touchées. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés, ainsi que des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, comment faire face à cette situation pour éviter beaucoup plus des cas de maladies et d'autres pertes en vies humaines?
Ok, merci beaucoup pour la question. Donc, je voudrais, avant de devenir le moyen, essayer de montrer que les inondations, d'une manière générale, et c'est un débordement, hein, par définition très simple, un débordement d'un cours d'eau ou également un débordement d'eau. Ça peut être des eaux de précipitation, tout comme ça peut être... C'est généralement des eaux de précipitation qui provoquent le débordement dans le lit des rivières ou de fleuves ou de lacs. Alors, ce qui est intéressant à retenir dans tout ceci, c'est de pouvoir savoir que les inondations qu'on connaît au niveau de la RDC il y a deux facteurs de plus importants. Et parmi les deux facteurs le plus important, il y a le plus important. Je vais préférer parler de cette modification de changement climatique éventuellement qui joue un rôle important. Parce que pour le changement climatique, avec tout ce que nous reconnaissons comme un réchauffement climatique, il y a deux conséquences les plus importantes. Vous avez la sécheresse, une forte sécheresse, c'est ce que connaît la plupart en Somalie, au Kenya, et voilà, dans certains pays de l'Afrique de l'Est. Et on a des inondations pour certains pays, éventuellement. Alors, on a deux, ça peut être les inondations, ça peut être la sécheresse. Et les deux conséquences, il faut arriver à le maîtriser. Et maîtriser ces conséquences, il faut connaître les comportements de lits de rivière, les comportements de lacs et les comportements des situations pluviométriques de milieux bien déterminés. Dans les cas du Congo, est-ce que les études ont été faites? J'espère, je crois, mais ce sont généralement les études qu'on aborde sans qu'il y ait beaucoup d'appui, parce que ça demande énormément de fonds pour qu'on ait des cartographies claires de cours d'eau, des lits de cours d'eau, et les zones à risque, et les zones à moins risque, les zones à haut risque, et les zones à moins risque. Et malheureusement, nous avons l'impression que ces lits de rivière, comme du fleuve Congo, ce sont des lits qui ont été construits, et une fois on construit, et avec le facteur de réchauffement climatique, on favorise les inondations par le fait que le cours d'eau ne trouve plus son lit lorsqu'il y a un certain débordement dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Alors, première chose, ce qu'il faudrait, c'est de pouvoir cartographier ce risque et ces risques d'inondation. Il faut évaluer ces risques d'inondation éventuellement. Et une fois on a cartographié, on a évalué, on est censé savoir délimiter les zones à risque et prévenir. Mais cela demande également une certaine mobilisation en milieu communautaire et même régionale, parce que le réchauffement climatique, la résilience climatique demande une concertation de l'ensemble de la population. Et ce qui en renvoie une certaine information, une certaine formation et une certaine sensibilisation. Donc, le deuxième élément important, c'est la sensibilisation de la population, donc c'est faciliter que les gens comprennent de quoi il s'agit, que ceux qui trouvent que le lit, ça fait 20 ans, ils trouvent qu'il y a un endroit où il n'y a jamais eu d'eau, et qui préfèrent faire l'autire parce que il est un jeune qui est né, par exemple, 10 ans avant, et puis 20 ans, il n'y a jamais eu d'eau, et il a 30 ans, il travaille au cadastre, il va faire un lotissement d'intérêt, alors que les inondations, ça a une fréquence de 15, de 20, et même de 50 ans. Chaque 50 ans, vous avez des inondations. Et alors, ces études doivent être évaluées et faciliter à ce que les gens comprennent qu'il faut protéger cela. Troisième élément, l'urbanisation. Il faut tenir compte des techniques d'urbanisation. Les canalisations, comment elles sont faites? Est-ce que nous avons des canalisations qui permettent à ce que nous collecter les eaux et pouvoir les réutiliser comme dans d'autres villes? On peut collecter des eaux et puis les réutiliser, les stocker, les réutiliser à des endroits où les gens n'en ont pas, ou peut-être pendant la saison sèche, où on peut faire ça, on peut faire des jardins, on peut réutiliser ça dans la maison, dans des douches, et ainsi de suite. Donc, notre urbanisation ne tient pas compte de tous les facteurs de construire une ville résiliente. Nous n'avons pas eu le temps de construire une ville résiliente. Donc, il nous faudrait maintenant repenser les modèles d'une nouvelle ville de Kinshasa, d'une nouvelle ville de Matadi, d'une nouvelle ville de Bukavu, de Lubumbashi, et ainsi de suite. Pourquoi pouvons-nous refaire maintenant une nouvelle ville résiliente au climat, donc au changement climatique? Donc c'est là, et une ville durable, ce qu'on appelle encore aujourd'hui des villes intelligentes. Alors il faut qu'on arrive maintenant à repenser cela, et ça demande énormément beaucoup de choses, certainement. Et voilà les trois éléments que je voulais vous vous donner pour vous dire que les inondations sont des facteurs naturels, mais on peut éventuellement prévenir à ne pas rester dans, à ne pas construire, à ne pas urbaniser les zones qui sont des zones à risque.
Professeur, est-ce qu'il y a des risques que les eaux ne retournent pas à leur lit naturel et que les eaux restent dans cet état là aujourd'hui et occupent les espaces, certaines maisons et autres restent entrent dans le lit du fleuve?
Oui, il faut savoir que lorsque on a le fleuve, prenons le fleuve Congo ou n'importe quel cours d'eau, nous avons trois types de lits. Nous avons le premier qu'on appelle les lits mineurs, c'est les lits dans lesquels coule régulièrement ces cours d'eau, même pendant la saison sèche et tout ça. Bon, on est beaucoup plus habitué à cela. Nous avons le deuxième lit qu'on appelle les lits moyens. Ces lits, c'est quand il y a des inondations. Et puis nous avons le troisième qui est les lits majeurs et qui a également lorsqu'il y a des fortes inondations. Alors, ces lits majeurs est constitué de replats, et c'est-à-dire où vous avez des types de végétation et des modèles géomorphologiques qui permettent à ce que, lorsque les éléments minéraux ou les sédiments provenant de versants de chaque côté du fleuve ou d'un cours d'eau sont bloqués ou absorbés par ces replats qui sont pratiquement des zones fertiles parce que c'est constitué principalement des limons et de l'argile. Alors, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pendant 20 ans, pendant 30 ans, on se rend compte que ces lits moyens et les lits majeurs restent sans être inondés, sans qu'il y ait un cours d'eau. Ça donne l'impression à des gens et à ceux qui font de l'administration, à ceux qui sont dans l'urbanisation, parce qu'ils n'ont aucune topographie, ils n'ont aucune planification, s'ils l'ont, c'est dans un autre sens, de croire que l'endroit est habitable. Parfois, quelqu'un, on peut lui dire que voilà, ce n'est pas habitable, mais ceux qui ont suffisamment de moyens ou de pouvoir préféreraient construire ou lotir la région. Une fois ce loti, ça devient vulnérable, parce qu'à chaque fois qu'il y aura des inondations pendant la fréquence X bien déterminée, pendant 30 ans, ou chaque 30 ans, ou chaque 20 ans, ou chaque 40 ans, ou chaque 50 ans, ou chaque 100 ans, on aura des fortes inondations, on a des dommages, on a des conséquences beaucoup plus graves sur la population et des situations complexes sur le terrain. Mais maintenant, ça va prendre du temps, parce que c'est de l'eau qui a essayé d'occuper le lit qui lui est réservé naturellement lorsqu'il y a un excès, mais ça retrouve que ce lit est occupé par des personnes. Alors, ça n'a pas de choix. Donc, c'est son lit, c'est son terrain, c'est son lit naturel, et ça va continuer. C'est ceux qui sont victimes, ce sont ceux-là qui ont préféré aller faire de la provocation, je dirais, entre guillemets, et de provoquer naturellement ces cours d'eau. Alors maintenant, ce qui est important, ça va prendre un temps pour qu'il y ait un mouvement de retrait, ça va être progressif, et puis ça va redevenir encore un peu normal, et les gens vont croire 15, 20 ans ou 10 ans après, ils vont croire que c'est normal, nous pouvons continuer à construire, et bon, c'est quand il y a des conséquences, on réfléchit.
Bien, on va accueillir le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre des recherches en eau des forêts du bassin du Congo. Professeur Raphaël, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, d'après vous, comment faire face aux dégâts causés par les inondations?
C'est que nous devons avoir des actions. Nous ne devons pas rester dans cette léthargie, toujours avec les verbes à la bouche. Il faut que nous puissions agir. Et pour agir, nous devons avoir un plan d'action. Nous avions organisé à l'université de Kinshasa, c'était en date du 25 janvier 2024, un grand atelier scientifique qui était auquel plusieurs parties prenantes avaient pris part. il y avait le membre du gouvernement, les scientifiques, le secteur privé, le secteur public, les investisseurs, ils avaient pris part à cet atelier. Nous avions mené une réflexion approfondie sur les causes de ces inondations, les conséquences de ces inondations et les dégâts bien entendu proposés et provoqués par ces inondations. Et nous ne sommes pas limités là-bas, il y a eu plusieurs recommandations. Il est important que nous puissions nous activer pour pouvoir mettre ces recommandations en œuvre. C'est que nous sommes en train de remarquer que nous sommes dans les contextes de changement climatique, des tels cycles de d'inondations pourront se faire observer régulièrement. Alors, il faudra que nous puissions avoir un plan d'action de gestion intégrée des inondations. Quand je dis gestion intégrée des inondations, c'est que je ne vois pas seulement l'aspect négatif des inondations, mais je dis aussi que les inondations constituent un excès d'eau qui doit être rentabilisé puisque ce sont des inondations fluviales. Nous pouvons bien les gérer, nous pouvons bien rentabiliser cet excès d'eau dans la perspective des gestions des services de ressources en eau. Alors pour cela, nous avons besoin d'un plan opérationnel de gestion intégrée des inondations. Et ce plan-là, lors de l'atelier, les parties prenantes à cet atelier ont réfléchi à ce plan et qui est en train d'être élaboré et qui doit être présenté à qui de droit pour pouvoir agir. J'ai dit, il est temps que nous puissions, je pense que nous avons trop parlé, il y a eu trop de verbes, de bons verbes, mais je pense que ceux qui sont affectés n'attendent pas seulement ce verbe, et ceux qui sont affectés attendent des actions. Il faut que l'année prochaine, nous puissions plus revenir à ce qu'on est en train d'observer actuellement. Je note qu'il y a des acteurs qui font des inondations, un fonds de commerce, il faudra que ça puisse s'arrêter et il faudra que nous puissions agir en termes de prévention, en termes de réponse pour pouvoir protéger les vies humaines, protéger les investissements, protéger les écosystèmes. Et nous voyons aussi la situation actuelle qui provoque des inondations parmi les causes. Nous voyons les activités anthropiques, la pollution, l'occupation anarchique incontrôlée des lits. Mon prédécesseur venait de décrire les systèmes fluviaux qui est construit des lits mineurs, lits majeurs et lits moyens, lits majeurs.
Moyen et majeur.
Voilà. Oui. Il est important que cette dynamique de la morphologie du fleuve soit respectée. Et pour cela, nous avons besoin de pouvoir délimiter les périmètres de sécurité de nos cours d'eau, tout en tenant compte de l'ordre des cours d'eau. Bien entendu, quand nous sommes sur le fleuve Congo, nous avons plusieurs ordres, ça va jusqu'à l'ordre 9. Et la mesure des protections, des périmètres, de la mesure des établissements, des périmètres de protection de nos cours d'eau, même aussi des zones de recharge, ne doit pas être une mesure unique. C'est une mesure qui doit dépendre, bien entendu, de l'ordre des cours d'eau que nous avons sur le bassin du Congo, en République démocratique du Congo. Voilà ma contribution pour ce qui est de la gestion des inondations en République démocratique du Congo.
Bien, on va accueillir Dieudonné Tshilombo de Kinshasa. Bonjour. Dieudonné, bonjour. Dieudonné n'est plus en ligne. Bien, professeur Jean-Pierre Djibou, on a suivi tout à l'heure le professeur Raphaël parler d'un plan d'action. Il faut un plan d'action. Est-ce que ces plans existent déjà ou il est en élaboration ou déjà en exécution?
Merci pour la question. Je pense que le professeur Chimanga venait de souligner qu'il y a eu des résolutions et qui sont en train de très élaborer. Je constate donc c'est ce qui est très important. Mais je veux souligner ceci en ce qui concerne les inondations. Le professeur Chimanga l'a dit, je le souligne une fois de plus. Il faut savoir que premier élément qu'il faut au niveau avant d'élaborer un plan, il faut arriver à faire une grande cartographie sur la morphologie du cours d'eau et délimiter quelles sont les zones à risque, la cartographie de risque d'inondation. Il est évident que chaque commune, chaque territoire ou chaque province, je parle des communes, doit avoir ce qu'on appelle plan communal d'études, de prévention d'inondation. Mais malheureusement, cela n'existe pas. Nous, en tant que scientifiques, nous faisons ça sous forme d'études, sous forme de conférences éventuellement, mais ça exige qu'il y ait des moyens. Il est délicat de pouvoir demander aux gens qui sont dans le lit de la rivière d'un cours d'eau X prénom du fleuve Congo, comme à Kinshasa, ou de la rivière ici, le Lubumbashi, ici à Lubumbashi, et de leur demander de quitter. Ce n'est pas dans le prérogatif d'un scientifique ou d'un académicien, mais c'est dans le prérogatif de ceux qui dirigent, alors, de ceux qui gouvernent. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le maquis dit, dit-on de rester beaucoup plus dans les théories, dans le verbe, nous avons besoin maintenant de l'application, d'être pragmatique. Mais on ne peut pas être seul pragmatique en tant qu'académicien dans une affaire qui concerne un territoire. C'est une gestion d'espace qui est gérée par une municipalité, un gouvernorat, et voilà. Donc il y a des dirigeants qui sont censés. Nous, nous pouvons que fournir les idées et leur montrer voici ce qui peut être possible si nous pouvons gérer ces eaux de pluie. Voici la quantité que nous pouvons gérer, la quantité qu'on ne peut pas gérer. Si nous voulons la gérer, de quelle manière? Est-ce que c'est pour l'agriculture? Est-ce que c'est pour l'utilisation domestique? Donc, nous, nous ne pouvons que leur fournir ce que nous pensons, ce que nous croyons faire pour atténuer. D'ailleurs, c'est atténué, on ne va pas avoir le risque zéro d'inondation, on s'est atténué les effets des inondations. Alors, ce sont ces gouvernants qui sont censés avoir le pouvoir de faciliter cela. Est-ce que le plan existe? Personnellement, je vais être modeste pour vous dire, ce plan-là, des communes, moi je travaille avec des communes, avec le mairie de Lubumbashi. Je vais vous dire que ça n'existe pas, peut-être à Kinshasa, mais ça doit d'abord être au niveau communal, et puis au niveau de province, et puis au niveau national, où on doit impulser à ce qui concerne. Alors, si nous prenons le fleuve, il est en train de pouvoir, il sillonne, il se répand pratiquement à toute la République. Alors, si c'est un plan qui doit être exécuté à Kinshasa, il doit, au même moment, ce que je dis, qu'il faut mutualiser, mobiliser les efforts au niveau régional et au niveau national. C'est-à-dire, pour le fleuve, s'il y a inondation à Kinshasa, c'est tout le fleuve qui est inondé, ça ne sera pas seulement à Kinshasa. Donc, il faudrait à ce moment-là, à ce moment-là, continuer à partager les informations, à travailler en collaboration avec les autres régions qui sont dans la qui sont traversées par le fleuve Congo. Donc le plan, c'est un travail qui demande des moyens et qui doit se faire au niveau d'abord local pour chaque et puis au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble du pays et bien sûr j'espère que plus tard on aura ce qu'on appelle les cours de l'eau parce que font suffisamment pas tous ces éléments-là qui nous garantissent la gestion de cours d'eau dans notre pays.
Bien, nous parlons aujourd'hui des inondations. Comment faire face aux dégâts causés par les inondations? Thomas est à Bounia. Bonjour Thomas.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre préoccupation?
J'ai une contribution quant à ce Monsieur Jody. Les problèmes des inondations traitées des eaux sont des phénomènes naturels. C'est-à-dire, c'est lié, c'est indépendamment de nous-mêmes, c'est un phénomène de la nature. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur Jody, mieux vaut prévenir que guérir.
Mais vous savez, il semble qu'il y a, ça fait 60 ans après, on a eu des inondations de ce genre, et parce que l'eau a atteint près de 6,5 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Justement, ce sont des phénomènes naturels, comme je disais, mais il fallait quand même prévenir. Parce qu'il y a des inondations parfois qui peuvent arriver, mais les dégâts, quand même, on devait les prévenir. Parce que d'autres inondations arrivent, il y a beaucoup de dégâts parce qu'il y a mauvaise utilisation de ces eaux-là. On jette de n'importe quoi dans les eaux. Vous voyez parfois, lorsqu'il y a même inondation, ça arrive même à briser même les ponts. Faire les garde-fous qui sont là, qui se plient. Vous voyez, ça, c'est pas seulement la pression de l'eau, c'est aussi les déchets qui arrivent pour. Il y a aussi des déchets qui contribuent à ça, mais aussi pour si vous voulez, éviter les dégâts-là, on devait quand même déclarer ces zones-là, les gens qui sont aux environs-là, comme une zone rouge, que personne n'y habite, cadastré, pour éviter tout ce qui se passe. Même les cas des volcans. Il y a aussi les cas qui arrivent à ce moment parce que il fallait quand même qu'on puisse déclarer les zones qui sont aux périphéries là, à côté même du volcan, parce que ça peut arriver à tout moment. On n'a pas des appareils, quatre constructions, quatre assez, mais aussi pour la rivière, on devait quand même déclarer ces zones là automatiquement zone rouge pour éviter, parce que les dégâts peuvent arriver. Mais si les gens sont éloignés de ces rivières là, vous voyez, ça ne peut pas causer autant de dégâts. Si les gens habitaient, quatre assez, l'État a une part de responsabilité, même je pourrais dire la responsabilité.
D'accord.
Est partagée, parce
merci.
Que nous, aussi, population, nous avons une part de... parce que vous ne pouvez pas construire, là, vous voyez que ça ne tient pas. Mais aussi l'État, tout ça, c'est, a une grande responsabilité et comme à l'État, parce que c'est l'État.
Merci Thomas.
Le sol et le sous-sol à passer à l'État.
Merci. Merci Thomas. Professeur Raphaël Chimanga. Professeur Raphaël, vous êtes là? Professeur Raphaël. Voilà, je pense que professeur est occupé à autre chose maintenant. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, qu'est-ce que vous pouvez dire à Thomas qui dit que c'est les zones autour de les cours d'eau devaient être déclarées des zones rouges. Les gens ne devraient pas normalement construire tout autour.
C'est évident, il a totalement raison. Il a totalement raison, il explique qu'il s'agit de phénomènes naturels, c'est naturel, donc on n'en peut rien, c'est vraiment naturel. Mais il faut s'adapter, il faut atténuer le risque. Pour atténuer le risque, ce sont des zones qui sont établies, des zones à risque et qui sont protégées. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, c'est ce que nous venons de dire, et nous venons de dire il n'y a pas longtemps, c'est le fait que on laisse l'outil urbaniser des zones qui ne pouvaient pas être urbanisées et qui sont des zones à risque. Et ces zones à risque deviennent un problème parce qu'on ne peut pas être inquiet uniquement quand il y a des morts, mais il faut prévenir. C'est une culture qu'il faut avoir, une culture de prévention, hein, qu'on arrive à prévenir qu'il n'y ait pas de morts. Et c'est ce qui est très important. Je crois qu'il a totalement raison en insinuant et en expliquant et en insinuant vraiment que ceux qui sont censés gérer le foncier, l'espace, doivent nécessairement comprendre avec une cartographie, vous comprendrez pourquoi nous avons insisté sur la cartographie des zones à risque, quand bien même on peut faire une... Les scientifiques que nous sommes, nous pouvons faire une surveillance sur les études hydrologiques et savoir le comportement des cours d'eau, les fréquences des inondations, dans combien de temps, ainsi de suite. Mais ce sont des phénomènes naturels. Donc on peut estimer à 90%, à 50%, à 100%, bon, c'est que ça n'a jamais été à 100% exactement dans des préventions. Sinon, on pourrait bien le faire pour les éruptions volcaniques. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On préfère prévenir avec la population sensibilisée, former, informer la population en leur disant ces zones-là ne sont pas habitables. Chez nous, il n'y a pas vraiment des zones interdites, si vous regardez. Donc, tout est loti. Il n'y a pas de zone, on va vous dire, ça c'est habitable, ça ce n'est pas habitable. Même dans les zones humides, vous regardez nos grandes villes, il n'y a plus de zones humides. Mais les zones humides ont leur fonction écologique dans une ville, dans un écosystème. Mais malheureusement, tout a été anéanti. Donc, c'est que, quelque part, nous ne savons pas savoir où se situent les limites dans les fonciers d'attribution de parcelles. Alors, ça serait intéressant que, une fois, bien qu'il y ait des surveillances d'études au niveau des inondations, il y a le facteur aggravant qui est le changement climatique, on n'en peut absolument rien non plus, mais on joue sur la population, sur la sensibilisation, sur les lois, sur les textes, sur les cartographies des sites qui sont dangereux et qui doivent être limités. Et on éloigne des populations de ces sites-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a totalement raison.
Bien. On va accueillir un autre auditeur, Joseph Olimwengu de Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde.
Bien. Pour vous, comment faire face aux dégâts causés par les inondations?
Bon, les inondations, on avait déjà un jour aussi à en parler, discuter. Les gens doivent d'abord savoir premièrement que les inondations c'est un phénomène qui est naturel. Partout au monde, les inondations existent. Alors, ce qui est maintenant là, et si les dégâts causés par les inondations beaucoup plus chez nous en RDC sont beaucoup très grands, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup plus, que le gouvernement n'a pas un plan d'urbanisme. Ça, j'avais encore répété. Il faut que l'État puisse avoir un plan d'urbanisme, désengorgement des villes. Nous avons des espaces, des étendues là où la population peut aller et peut se retrouver à l'aise et surtout très loin des eaux, très loin des eaux. Et là, vous allez voir que les gens construisent par-ci par-là, même là où les eaux passent, les gens y construisent, même là où ce sont des sites purement impropres, les gens y construisent. Et pourquoi des catastrophes naturelles que nous sommes en train de connaître, les éboulements, les cas de tremblements de terre, les cas des éruptions volcaniques, et ça attrape beaucoup la population et ça cause beaucoup de dégâts parce qu'il n'y a pas un plan. Alors, ce qui est là, c'est quoi? Et que ce soit l'État, que ce soit la population, chacun doit prendre ses responsabilités à main. L'État doit désengorger la ville. L'État doit veiller à ce que la population ne puisse pas construire sur des sites impropres, à côté des eaux, à côté des lieux. Là où les eaux avaient encore provoqué des inondations, tout ça, et éloigner la population de ces lieux-là. Mais aussi, sanctionner tous ceux-là qui vendent des terres, tous ceux-là qui vendent des concessions à des particuliers à côté des zones impropres à la construction, même à côté des eaux, on les voit partout. Même à Bukavu, à Ouvira, vous allez voir, quand il y a inondation, les gens qui ont été beaucoup plus touchés, ce sont des gens-là qui construisent à côté des rivières. Parce que le dégât ne peut pas être de la même façon que celui qui a construit très loin, qui s'est éloigné des rivières, qui s'est éloigné des sites impropres, les collines, les plantes et tout ça. Et c'est pourquoi nous sommes en train de souffrir. Et celui qui doit faire de l'ordre, celui qui doit tout planifier, celui qui doit sanctionner, c'est l'État congolais.
D'accord. Merci Joseph de Bukavu. Patty, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Dommage, il n'est plus là. Professeur Jean-Pierre, vous avez suivi Joseph de Bukavu, dit qu'il faut un plan d'urbanisme et surtout peut-être arriver à déplacer toutes ces personnes ou interdire toute construction le long des rivières, fleuves et des cours d'eau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Bon, je crois que notre collègue a totalement raison dans ce qu'il donne comme élément. Et lorsqu'un pays n'a pas un plan d'urbanisation, c'est-à-dire c'est un pays qui n'a pas un plan d'aménagement du territoire. Il faut qu'un pays puisse avoir un plan d'aménagement du territoire. Et le Congo n'a pas de plan d'aménagement, et s'il y en a, Donc, le Congo ne l'applique pas. Et si le Congo ne l'applique pas, donc, nous ne pouvons même pas considérer à ce moment-là, parce que nous avons le ministère de l'aménagement, nous avons des divisions d'urbanisme et habitat, nous avons, mais malheureusement, vous n'avez qu'à observer la manière dont nos villes sont construites. Et ce ne sont pas des villes modernes, ce ne sont pas des villes durables, et donc il n'y a pas de plan d'aménagement. Il a totalement raison. Ce qui est très intéressant ici, c'est de rappeler si tout ce matériel, toute cette planification, tout ce plan qui existe dans les tiroirs pouvait être appliqué. Voilà la grande difficulté que nous avons entre nous, les scientifiques et les académiques, et ceux qui gouvernent. C'est nous, nous donnons ce que nous pouvons leur dire, voici. Nous pouvons élaborer ce plan, nous pouvons élaborer la cartographie, nous pouvons faire la surveillance. Nous pouvons leur dire, voici le plan d'aménagement qu'on peut avoir par territoire ou par ville. Voici ce que vous pouvez adapter par rapport aux réalités, aux changements climatiques, aux inondations, aux risques volcaniques, aux risques d'érosion. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps ce qui s'est passé à Canada avec des risques d'érosion et tout ce qui se passe au Kasaï, en ce qui concerne les risques d'érosion. Donc tout cela, nous pouvons leur fournir. Mais où se situent les niveaux d'application, l'applicabilité de ces outils le plus important? Donc on va tourner en rond, et chaque fois il y aura des morts, et parfois, c'était même étonnant, quand vous avez des morts d'inondation, on en parle moins, nous avons une culture même de banaliser des morts, on en parle moins, et ce sont les médias extérieurs qui nous donnent suffisamment d'informations sur les détails de ce qui nous concerne. Pourquoi cacher même ceux qui sont partis à cause des inondations? Donc ça, ce sont des éléments les plus importants. Nous devions faire des statistiques claires sur les conséquences, sur les dommages causés par les inondations, et prendre cela comme une leçon, que cela ne se reproduise plus l'année prochaine ou dans 5 ans, dans 10 ans. Mais on revient mais toujours avec les mêmes
professeurs. Professeur, on dit que ce genre d'inondations arrivent peut-être 60 ans après. C'est pas tout le temps que ça peut arriver.
Mais tout à fait, mais nous avons eu ces inondations, et l'année passée on a eu des inondations, cette année on a des inondations. Là, il y a 2 ans ici à Bukama, à Luena, à Kabalo, on a eu des inondations, à Lémy. Donc les inondations, chaque année nous avons des inondations à Kinshasa. Mais on a des inondations qui deviennent encore beaucoup plus importantes au fur et à mesure, parce que le réchauffement climatique devient facteur aggravant. Quand bien même nous avions des inondations chaque 50, chaque 60 ans, chaque 100 ans, et normalement, ça, quand nous sommes dans une configuration naturelle qui était auparavant, maintenant nous avons une influence de changement climatique, de réchauffement climatique, qui nous oblige d'avoir ces inondations naturelles presque chaque année. Mmh. Vous les avez, le fleuve Congo ici à Bukama, l'année passée. Et l'année, il y a 2 ans, il y a chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque année, nous avons des inondations dans la dépression des Kamalondo, au niveau de Kolwezi, au niveau des Kalemi, au niveau de Kabalo, au niveau, voilà, des Congolo. Donc, ça devient récurrent.
Récurrent, donc, voilà. D'accord. Un instant, professeur, on va accueillir Patty depuis la ville de Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité et tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre question par rapport aux dégâts causés par les inondations?
Oui, ma préoccupation était celle-ci. Vous savez, dans la nature ici, des fois l'homme pardonne. Il y a des fois où l'homme pardonne, mais la nature, elle, ne pardonne pas. Quand tout ce que vous faites à la terre, tout ce que vous causez comme dommage à la terre, attendez-vous à une réponse. Alors cette réponse-là, ça sera pour que vous puissiez pleurer. Nous, de la manière dont nous nous comportons, de la manière où on ne sait pas respecter même les lits des eaux, ce qui nous arrive, c'est une conséquence logique. Ce qui nous est arrivé, nous avons perdu nos bien-aimés, nous avons perdu nos biens, nous avons perdu des maisons, des écoles. C'est une conséquence logique. Nous-mêmes, d'abord, nous sommes insensibles. Nous voyons nous-mêmes bien que nous, ces zones ici, cette zone ici, c'est les lits des eaux. Mais curieusement, nous venons là, nous construisons. Et l'État aussi vient et il nous donne même les documents. Donc l'État aussi,
oui, je Patti, ne sais pas moi, il Patti, ne sait pas de nous. Patti, oui. Aujourd'hui, les faits sont là, on a des dégâts, on a enregistré des dégâts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ces dégâts, voilà, pour peut-être éviter oui. le pire?
D'accord, ce qu'il faut faire, comme nous avons déjà récolté ce que nous avions semé, que l'État prenne maintenant, qu'il n'aille pas honte, qu'il chasse tous ces gens-là qui occupent ces zones-là, que ces gens-là quittent. Il y a beaucoup d'espace. Regarde-moi Kinshasa là. À Maloukoula, il y a beaucoup de places où les gens peuvent habiter. Même chez lui ici à Bandoulou ici. Tout au long de la rivière Kwilu, tout au long de la rivière Kassai. Mais c'est dommage. Mais les gens sont, ils sont toujours là. Que l'État prenne les bâtons à main, qu'il chasse ces gens-là, que les gens déménagent de ces lieux-là, qu'ils construisent ailleurs. Après 50 ans, après 20 ans, même si les inondations viennent encore, que les autres trouvent leur lit, qu'ils passent. Parce que vous ne pouvez pas barrer sa route. Si vous barrez sa route, elle-même va se franchir la route. Et quand ils veulent même franchir la route, voilà maintenant ce que nous sommes en train de déplorer. Que l'État prenne les choses à main, que les gens quittent de ces places, que les gens ne reviennent plus, que les gens ne reviennent plus. Que ces zones-là restent comme ça, qu'on ait des arbres, qu'on ait des tourbières, qu'on ait toutes ces zones-là humides.
D'accord.
Les gens quittent de ces places-là.
Merci, merci beaucoup, Patti, depuis Bandundouville. Professeur Jean-Pierre.
L'intervenant venait déjà de souligner un aspect important parmi des solutions, hein, c'est vrai. La délocalisation de toutes ces personnes qui sont dans des zones à risque. Il vient d'ajouter l'espace vert, c'est-à-dire la revégétalisation des espaces. Alors, ces zones-là doivent devenir des zones vertes. Et ce qui va permettre une autre solution assez intéressante, de pouvoir créer des zones de rétention des eaux de pluie. Et ces zones qui vont avoir comme fonction de résorber et tout ce phénomène en diminuant, en facilitant donc la perméabilité, bien sûr, et aussi en diminuant les eaux des inondations. Et c'est vrai qu'on peut avoir une autre solution, mais ça dépend de pays qui ont suffisamment de moyens. C'est de pouvoir avoir une conception d'avoir des maisons flottantes, hein, qui sont des maisons coulissant sur des poteaux. Alors là, ce sont des moyens, comme le Pays-Bas. Ils sont arrivés à construire des maisons sur de mer, évidemment. Donc, quand il y a même des inondations, ça flotte. Donc, ça flotte déjà. Alors là, ce sont des moyens, ce sont des technologies. Il faut aller dans cette architecture moderne et durable et qui existe, mais nous n'avons pas...
Professeur, oui. Avant qu'il y a beaucoup de pêcheurs... qui construisent les maisons sur pilotis. Alors aujourd'hui, avec ces inondations, je ne sais pas si ces maisons existent encore.
Oui, c'est vraiment du savoir. C'est du savoir traditionnel enrichissant. D'ailleurs, les Hollandais sont partis de ces traditions de gens qui construisaient des pêcheurs. Vous avez les Wagenias, vous avez du côté Kisangani. Hein. Donc des gens qui ont des maisons, qui vivent presque sur... à l'Équateur aussi, sur le fleuve. Ce sont des techniques qu'ils ont développées, mais maintenant en faisant des maisons beaucoup plus modernes et sur des cours, et c'est faisable. C'est du savoir traditionnel et enrichissant et qu'on peut développer et dans des milieux où les gens sont habitués à cela. Mais bon, c'est une des solutions qui est externe, bien sûr, mais bien, nous avons la possibilité de pouvoir diminuer, parce que l'objectif, c'est de pouvoir diminuer les morts. C'est pouvoir atténuer les conséquences des inondations. Alors, si on doit diminuer, nous sommes obligés d'utiliser tous les moyens, toutes les solutions possibles et qui sont à notre portée afin de le faire. Notre collègue et l'intervenant, il a totalement raison et sur toute la ligne, et j'espère bien que nous avons l'obligation de faire partir les personnes qui ont construit sur ces lits-là et qu'il faudrait, à partir de cartographie établie des zones à risque, et que l'État ait une bonne cartographie, un plan qui lui montre que c'est ça, des zones habitables, ça ce n'est pas habitable, et les gens qui sont dans des zones inhabitables sont censés être délocalisés et les trouver. Est-ce que, c'est la question que je me pose souvent, est-ce qu'il est nécessairement obligatoire ou on est exigé, on est obligé de ne habiter, de ne rester que dans les villes comme Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi et tout ça, n'y a-t-il pas moyen de développer une politique qui permette, afin de désengorger, comme disait notre collègue, et il n'y a pas longtemps, nos villes, en créant de villes, de petites villes ou de villages qui étaient devenus en le regroupant et constituer les villes, les villages très proches en devenant de petites villes proches avec tous les systèmes modernes. Donc je crois qu'il faut aussi arriver à réfléchir qu'il y a moyen de créer des villes, de continuer à rester avec des villes depuis l'époque coloniale sans avoir à créer pour un pays si vaste comme le Congo. Et ça là, on aura moins de population, moins de pression anthropique sur les écosystèmes urbains, et on pourrait à ce moment-là avoir des gens qui préféreraient rester à 50 km ou à 100 km de Kinshasa et venir travailler s'il a le véhicule, comme le font plusieurs personnes dans d'autres pays civilisés.
D'accord. On va accueillir Maître Omar tout à l'heure, mais vous avez dit aussi qu'il faut un bon système de drainage pour faire face à ce genre de choses. Bien. Oui. Maître Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour.
Monsieur Jody, bonjour aux invités.
On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Jody. J'ai fait mieux les interventions pertinentes des invités. Mais moi, je voudrais apporter un peu de sauce socio-juridique dans ces bons débats pour dire qu'au Congo, en 2011, une loi portant protection de l'environnement a été votée. En 2014, une autre loi sur la santé. Ces lois ont institué ou établi deux causes des inondations. La première, elle est naturelle. Ça veut dire, même dans le monde d'ailleurs, il peut arriver qu'une ville soit inondée. Et pour faire face à des causes naturelles, il faut un plan de contingence humanitaire. Malheureusement, au Congo, ce plan n'existe pas. Soit il existe, mais il n'est pas efficace. Voilà pourquoi on voudrait interpeller l'État qui, à travers les ministères des Affaires humanitaires et sociales, doit s'y faire. Deuxièmement, il dit la deuxième cause est humaine. C'est la mauvaise gestion naturelle de l'homme qui fait qu'il y ait beaucoup d'inondations. On a parlé des canalisations. Cette loi érige en infraction le fait de mal gérer les déchets, le fait de gérer les déchets partout, le fait de boucher les caniveaux, le fait de jeter n'importe. Je vous donne un exemple pareil. Les brassicoles congolaises, qu'on n'est pas les citer pour raison de publicité ou de réputation, ils déversent leurs déchets dans les eaux du fleuve et dans le lac et partout. Alors que la loi interdit ça et érige cela en infraction. Parce que le fait de jeter les immondices ou les déchets sur les eaux du fleuve ou du lac, non seulement pollue l'eau que nous buvons, facilite également les inondations parce que l'eau se déborde. Donc, au-delà du fait naturel qui doit être combattu par les plans de contingence, il faut qu'il y ait la prévention. Est-ce que le Congolais a une éducation environnementale? Parce que l'environnement est constitué de l'eau, du sol, de l'air que nous respirons. S'il est mal géré, voilà pourquoi on a beaucoup d'inondations. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une loi sur la loi foncière qui parle des constructions irrégulières et régulières. Est-ce qu'on respecte? Parce que parmi les causes humaines, il y a aussi des mauvaises constructions. Au-delà du fait naturel, il faut qu'il y ait d'abord la prévention, il faut qu'il y ait la vulgarisation des normes environnementales. Il y a quelques chaînes ici à peine qui font la promotion de l'environnement, la radio Capi aussi, mais d'autres le savent. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la sanction. En Deuxième République, il y avait une police environnementale qui passait dans chaque parcelle. Si vous avez des déchets non jetés, on punissait. Si dans votre avenue, il y a des gens qui jettent des bouteilles d'eau dans les caniveaux, on punit tous les quartiers. Si des gens fument en cours de route, on punissait. Pourquoi la police environnementale n'existe plus? Donc, j'ai fait mieux les interventions des professeurs, si l'État peut en prendre compte, mais je voulais ajouter qu'on active les plans de contingence, également qu'on applique réellement le code de l'environnement qui a tout prévu en termes de sanctions, en termes de vulgarisation et en termes de répression. Voilà ma petite contribution, je dis bon début de semaine, de week-end.
Merci Maître. Professeur Jean-Pierre, votre réaction?
C'était un ajout pertinent. Lorsqu'il y a un cours de l'environnement, tous les éléments sont détaillés, certainement. Et même de manière générale, pour tout ce qui concerne, que ce soit pour les glissements de terrain, que ce soit pour les inondations, pour tous les risques et pour les pollutions et tout ça. Mais là, c'est vrai que nous sommes dans une situation des inondations qui prennent des ampleurs étonnantes. Simplement parce qu'elles sont aggravées par le facteur réchauffement climatique. Nous avons l'obligation de pouvoir éduquer. Et là, c'est le point le plus essentiel. Je parlais de la sensibilisation, de l'information, de la formation. de la population. Mmh. L'éducation environnementale, c'est un civisme écologique. L'environnement en soi, c'est cela. C'est savoir vivre, donc savoir être. Le savoir être. Donc c'est un civisme écologique. Et lorsqu'on est dans un civisme écologique, c'est un état d'une personne. Mais alors, si cette personne ne comprend pas, ça ne marche pas. Même s'il y a des plans, même si, et c'est pourquoi vous avez entendu, il a souligné l'aspect, en dehors de l'aspect naturel, cet aspect est tout à fait anthropique, humain, et qu'il faut arriver, aussi humain, et qu'il faut arriver à éduquer la population. Il faut que la population sache, regardez comment nous faisons les systèmes de drainage. Et si vous constatez très bien, toutes nos maisons, toutes nos parcelles sont pratiquement pavées. Alors si nos parcelles sont pavées, ça signifie qu'il y a moins de végétation. S'il y a moins de végétation, il y a moins de sol, l'eau ne sait plus s'infiltrer, il y a moins de... Donc il n'y a pas de perméabilité, l'eau finit par ruisseler, et les ruissellements, ça doit sortir de nos parcelles pour trouver le routes qui vont faire le travail de cours d'eau. Et ces routes vont ramener des parts et d'autres, et nous avons suffisamment de routes qui sont inondées, et la quantité d'eau qui arrive dans le cours d'eau et ne permet plus de, donc le cours d'eau ne permet plus de pouvoir absorber, et les villes s'inondent davantage. Alors, il y a cette notion d'aménagement, et que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas mettre de pavement, cimenter complètement leur parcelle, et ils doivent revégétaliser. On a besoin de l'espace vert, parce que l'espace vert va jouer le rôle de faciliter la perméabilité, d'absorber, bien sûr, en dehors des pollutions, et de pouvoir aussi absorber de l'eau et de l'évacuer par les systèmes d'évapotranspiration, et aussi de faire le barrage de brise-vent et de pouvoir aussi favoriser par l'évapotranspiration. Donc nous avons l'obligation de former, d'éduquer la population. Et ceux qui doivent le faire, ce sont ceux-là. Il y a bien sûr les ONG, il y a la société civile, il y a les formations, il y a des scientifiques, il y a tout le monde, mais il y a ceux qui doivent appliquer cela lorsque les gens n'arrivent pas à respecter ce qui est prévu par le code de l'environnement et qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Tant qu'il n'y aura pas des sanctions, rien ne marchera.
Bien. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert sur les questions de l'environnement et risques naturels, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
Merci et pareillement.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de l'avoir suivi. Willem Lungamba était à la mise en onde, Tati Mapuko a assuré la coordination et la réalisation avec l'assistance de Marc Chata. Au micro, Jody Daniel Keshama. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.